Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes, c'est incroyable, le lundi 21 février, il est 8h30. S'il avait pu, il serait resté couché, mais le café est bon à la radio. Il s'est dit, bon allez, je vais y aller à la tactique. Corto, salut.
Salut Ben, et bah disons, tu m'as bien cerné. Hein,
comme tes yeux un peu ce matin. Au programme de cette matinale, nous sommes en direct et en plateau avec Marion. Bonjour.
Bonjour.
Tu as pris ton poste l'été dernier ici, tout à côté, puisque tu travailles pas à l'Institut Supagro de Florac, mais tu travailles pour le Campus Connecté. On en parle dans un instant, puisque bientôt, c'est l'heure pour les lycéens déjà de décider ce qu'ils vont devoir faire l'année prochaine, si tant est qu'ils aient le bac, évidemment. En tout cas, on parle de ça avec toi dans un instant. Et notre cher Raphaël devait venir faire sa chronique Histoire Brève aujourd'hui, mais son fils a eu quelques déboires. Alors on pense à toi, Raph, et à toi, Tim. On te souhaite un excellent rétablissement. C'est vrai, quand on a 7 ans et demi, on se retape mieux que quand on en a 40, ça c'est sûr. On pense bien à vous. En tout cas, en dernière partie d'émission, notre stagiaire Naïs, qui était là la semaine dernière, est allée à l'AG de la Confédération Paysanne. On écoutera son reportage tout à l'heure. C'était son premier. Franchement, je l'ai écouté. Il déchire. Elle me fait halluciner. Quoi. Sérieusement, elle en voulait un Corto, Naïs, en stage.
Elle était extrêmement déter, ouais. Ouais, très content d'elle.
C'était trop cool de bosser avec elle. Il y aura de la musique. Aujourd'hui, c'est une spéciale Jacques Brel. Et on commence, Corto, si tu veux bien, par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Et en guise d'édito ce matin, un conseil lecture qui ferait du bien à beaucoup de monde en ce moment. J'ai commencé à lire La falsification de l'histoire de Laurent Joly et ça déchire. Spécialiste de l'extrême droite et du régime de Vichy, Laurent Joly restitue le polémiste d'extrême droite et candidat à la présidentielle dans la tradition politique du nationalisme éthique né au tournant du XXe siècle et dont les idées ont été portées au pouvoir en 1940. Quand je dis polémiste d'extrême droite, je pense que vous comprenez de qui je veux parler. Si l'ancien journaliste, est-il journaliste d'ailleurs, vaste débat, veut réécrire l'histoire de Vichy et de la persécution des juifs, c'est que son projet vise à rendre possible des politiques disqualifiées depuis les crimes de la collaboration, c'est-à-dire mettre en bas l'état de droit, stigmatiser les minorités, expulser 2 millions d'étrangers et deux, entre guillemets, mauvais français, etc. Se fondant sur des sources inédites, exhumant des controverses oubliées, Laurent Joly démontre dans cet essai implacable que le candidat à la présidentielle, dont je n'arrive décidément pas à prononcer le nom, n'hésite pas à falsifier les faits historiques afin d'unir les droites sous l'étendard de la haine de l'étranger. Ce que le polémiste dit et écrit sur Pétain, Vichy et la Shoah est révélateur de ce qu'il est, de ce qu'il pense et de ce qu'il veut faire si lui-même ou ses idées arrivaient au pouvoir. Les mensonges anciens ne sont pas des vérités nouvelles. L'histoire scientifique est un acte de salubrité publique à l'ère de la malhonnêteté intellectuelle triomphante. N'oublions pas d'ailleurs une chose, la falsification de l'histoire est un instrument principal du totalitarisme. On peut généraliser, toute société, toute civilisation, tout pays ne peut prendre conscience de soi qu'en se donnant une vision de son passé. Elle peut être vraie ou bien fausse, ou encore, et plus souvent, à moitié vraie ou radicalement fausse, donnant lieu alors à des systèmes totalitaires. On parle dans un instant de campus connecté, mais un peu de flamand ce matin. Min Vlakland, le plat pays, c'est signé Jacques Brel.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Noorse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duinen de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken,
die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht onze nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als sleisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land. Mijn vlak land.
Qui a dit que le flamand ne se chantait pas? Mein vlak land, le plat pays, Jacques Brel. De retour en plateau avec Marion. Marion du campus connecté ici à Florac, on va en parler. Tout le monde, tu vas tout nous dire, tout nous expliquer.
Mais
d'abord, d'où nous viens-tu? Quel est ton parcours? Celui qui t'a amené dans notre chère petite bourgade de Florac.
Eh bien, moi, je suis originaire de Mende, donc pure lausérienne. Je suis partie il y a 20 ans pour faire mes études, comme beaucoup de lycéens en Lozère. Je suis partie à Toulouse, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai bossé pendant plus de 10 ans dans le BTP, un peu partout, dans le sud-ouest et puis longtemps à La Réunion. Et puis, je suis revenue il y a quelques années maintenant avec l'envie de retrouver mon territoire d'origine. Et puis j'en avais clairement très très marre de mon boulot d'ingé, donc je me suis reconvertie, j'ai suivi une formation en accompagnement au projet professionnel avec vraiment l'envie de retrouver un peu plus d'humain dans mon quotidien. Et puis voilà, l'opportunité a fait que je me suis retrouvée à Florac avec grand plaisir à m'occuper du démarrage de ce projet Campus Connecté.
Alors justement, on en a parlé du Campus Connecté au moment de son ouverture l'été dernier avec Corinne et avec Christian Ramon. Il a été effectif en début d'année scolaire si je me souviens bien. Et si je me souviens bien, ce sont deux dossiers qui avaient été déposés par la mairie de Mende et celle de Florac. Ça a été accepté. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est dans les grandes lignes, c'est quoi le Campus Connecté?
Alors le Campus Connecté, c'est un lieu d'études labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, comme 89 autres campus connectés en France, qui permet à toute personne qui suit ou veut suivre une formation ou des études supérieures à distance de venir le faire au sein du campus en bénéficiant gratuitement d'un accompagnement par une tutrice, en l'occurrence moi à Florac, de matériel numérique et informatique performant, d'un cadre de travail propice aux études, enfin voilà, tout un tas de services qui favorisent la réussite de cette formation ou de ces études à distance.
Toi qui es la première avoir été engagé ici sur ce poste à Florac, c'est quoi tes missions? Tu dis tutorat, alors on comprend un petit peu le mot, mais voilà. Et est-ce que t'as suivi des formations ou est-ce que t'es allé voir d'autres exemples de campus connectés?
Alors tout ça est vrai. oui, bah alors tutorat, c'est vrai que on imagine bien que voilà, on est là pour l'accompagnement, et c'est vrai que c'est un accompagnement qui est assez large. Ça dépend vraiment des besoins de chaque étudiant qui s'inscrit au campus. Donc l'accompagnement, il est très diversifié. Moi, en l'occurrence, là, cette année à Florac, mon tutorat, il est très limité. Enfin, le tutorat pédagogique, on va dire, parce que j'ai des étudiantes qui sont très, très autonomes, donc elles n'ont pas vraiment besoin de moi pour les aider à étudier. Elles sont plus venues rechercher, comment dire, des relations sociales, où voilà, je peux donner mon avis sur tel ou tel projet qu'elles ont à rendre, ou en termes d'organisation. Mais c'est vrai que le tutorat, ça peut aussi aller jusqu'à aider à mieux comprendre un énoncé. Voilà, ça va vraiment dépendre des besoins de la personne. Après, c'est aussi de l'accompagnement motivationnel pour s'assurer que la personne ne baisse pas les bras quand il y a des petits coups de mou, ce qui arrive régulièrement. Ça peut être de l'accompagnement même sur des problématiques financières ou personnelles. Enfin, voilà, on est vraiment un tuteur, quoi, au quotidien.
Tout à fait clair. Et parce que concrètement, c'est quoi une journée de cours, entre guillemets, pour quelqu'un qui suit une formation au Campus Connecté? Est-ce que c'est toute la journée devant l'ordi? Donc tu dis, effectivement, t'es là pour les aider, etc., et les accompagner, mais ça reste quand même tout seul.
Eh ben, c'est pas vraiment tout seul. Déjà, c'est ça l'intérêt du campus connecté, c'est que plusieurs étudiants se retrouvent dans une même salle d'études, donc ça permet de l'entraide entre étudiants. Et puis, en fait, il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent. C'est vrai que selon la formation que les étudiants suivent, ils n'ont pas du tout les mêmes programmes ou déroulements de journée. Donc, il n'y a pas de journée classique, on va dire, si ce n'est que du coup, quand les étudiants sont là, chacun est certes derrière son ordi à suivre son parcours de formation, mais en fait, voilà, ça permet aussi, contrairement à quand on est tout seul chez soi, bah, de pouvoir faire une pause café avec les collègues qui sont là, de pouvoir échanger sur telle ou telle problématique, parce que finalement, même si on n'étudie pas la même chose, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent. Et donc, il peut y avoir aussi voilà, du débat, échanger sur telle ou telle problématique et puis se donner des points de vue. Donc voilà, c'est hyper enrichissant pour ça, le fait qu'il puisse y avoir une entraide et de la relation humaine. Et pas seulement avec son ordi, quoi.
Oui, ça, c'est sûr. Et puis, ça fait 2 ans qu'on va parler de télétravail et de machin et de seul chez soi. Tu m'étonnes que ça fait du bien de voir un peu de gens la journée. Alors, cette année, pour une première, quel est le bilan, finalement, de... Enfin, là, ça fait quoi, 6 mois ?
6 mois, ouais.
Quel est le bilan de ces 6 premiers mois ?
Eh ben, plutôt positif, parce qu'on a... donc, à l'échelle de la Lozère, on a 13 inscrits. Sur Florac, on en a 5. Donc, les objectifs pour cette première rentrée sont atteints. On est, du coup, sur des promos... Si je raisonne Lozère, hein, qui vont de 19 ans à 51 ans pour la doyenne, donc un public très varié, des profils très variés aussi. Il y a des jeunes qui ont repris des études, donc celui qui a 19 ans notamment, et puis des personnes qui sont salariées ou demandeurs d'emploi, qui ont des objectifs de reconversion notamment, donc qui viennent suivre leur formation au campus pour pouvoir aussi se créer un cadre hors de chez soi et être un peu plus concentré sur ses études.
Ouais, c'est un peu l'avantage sur des formations à distance type CNED ou ce genre de trucs.
C'est ça, il y en a qui suivent par le CNED, d'autres par des universités qui proposent les enseignements à distance.
Alors justement, là, le but aussi, puisque c'est Parcoursup en ce moment, c'est ça pour
c'est
les lycéens,
ça, ils sont
en plein dedans. Le truc que j'ai toujours pas compris, comment ça marchait, tu peux l'expliquer un tout petit peu ou
Je sais pas, même si moi je peux expliquer Parcoursup, c'est une belle nébuleuse. Ouais. Non, enfin, ce qu'on peut expliquer clairement, c'est que là, il y a la première phase qui est hyper importante pour les lycéens, qui est celle où ils doivent choisir leur formation et donc émettre des vœux. Ils ont jusqu'à fin mars pour faire ça. Alors après, rentrer dans le détail de temps de vœux, machin, il y a toute une stratégie à mettre en place qui est assez complexe. Mais moi, ce que je conseille vraiment à tous les lycéens là, c'est de choisir un maximum de vœux pour qu'ils aient finalement le choix, parce qu'ils peuvent pas savoir sur quoi ils vont être sélectionnés. Donc en s'ouvrant un maximum de portes, ça leur permettrait d'avoir le choix si jamais celles qu'ils veulent à tout prix ne sont pas sélectionnés sur celle-ci. Et éventuellement, de mettre une formation qui serait dispensée à distance, pour avoir cette option-là aussi de pouvoir, si finalement ils sont pris qu'à Lille ou à Strasbourg et qu'ils n'ont pas envie d'aller si loin ou qu'ils n'ont pas les moyens financiers, bah de pouvoir basculer sur du distanciel et rester 6 mois ou 1 an de plus en Lozère si c'était pas possible pour eux de partir, quoi.
D'ailleurs, la formation Campus Connecté, elle est payante, gratuite, comment ça se passe?
Le service, parce que ce n'est pas une formation, c'est un lieu, il est totalement gratuit, c'est porté par la ville de Florac et c'est financé en grande partie par l'État. C'est un projet sur 5 ans, donc il n'y a rien à débourser, tous les services sont gratuits.
Est-ce que tu as des liens avec le Campus Connecté de Mende qui a été ouvert en même temps en fait, hein?
Ouais. Bah, en fait, vraiment, le projet, on essaye de le porter à l'échelle de la Lozère. Donc, ma collègue Myriam, qui est tutrice à Mende, on intervient toutes les deux systématiquement quand il faut faire des présentations, notamment au lycée, ce qu'on est en train de faire en ce moment auprès des terminales. On intervient toutes les deux et vraiment, l'idée, c'est de se dire qu'on travaille en collaboration. On s'entraide beaucoup aussi parce que finalement, c'est des postes qui sont nouveaux. Donc, nos missions, on les a découvertes toutes les deux en même temps. Donc, on est assez contente de pouvoir travailler au quotidien ensemble et d'aller faire nos présentations auprès des partenaires aussi, vu qu'ils sont communs, donc ça n'avait pas vraiment de sens de raisonner chacune seulement sur son campus à soi, quoi. Finalement, on raisonne Lozère et ça fonctionne plutôt bien.
Et c'est sûr que ça va durer. Justement, est-ce que si jamais, quand tu vas faire démarcher dans les lycées, etc., tu dis quand même aux lycéens, attendez, si vous pouvez partir partez, allez voir du pays. C'est juste une solution d'aide, vraiment.
Alors oui, c'est complètement ça le discours. C'est vraiment de se dire, si vous avez l'occasion de partir, mais partez, et surtout si vous en avez envie. L'idée, c'est vraiment pas de contraindre les gens, enfin de leur dire que ça pourrait être mieux à distance. Pas du tout, c'est pas mieux à distance. Hein. Surtout, voilà, comme tu le disais, après les 2 ans qu'on vient de passer, ça fait pas forcément rêver de se dire qu'on va rester derrière son ordi. Donc, bien sûr, si les jeunes peuvent partir, on leur dit allez-y. Maintenant, nous, l'idée aussi, c'est d'offrir en fait cette petite opportunité-là à ceux qui ne pourraient pas partir, parce que... En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les territoires ruraux comme les nôtres, il y a des très bons résultats scolaires. On a des super, super bons lycéens avec des très bons résultats au bac. Mais il y a quand même une proportion de futurs étudiants moindre qu'ailleurs qui part faire des études et beaucoup qui abandonnent au bout d'un an. Donc, pour des raisons financières notamment, il y a quand même beaucoup de contraintes quand on veut étudier et qu'on vit en Lozère. Hein, donc, du coup, l'idée, c'est plutôt de cibler ces personnes-là, leur dire, sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez quand même poursuivre des études supérieures en restant en Lozère, grâce au campus connecté.
Et oui, et puis c'est tellement bien la Lozère, enfin bon bref, ça c'est un autre débat.
Mais c'est aussi ce qu'on essaye de leur dire, c'est que c'est pas qu'une solution par défaut. Ouais. Effectivement, il y en a qui pourraient avoir envie de partir et qui se disent, bah non, moi je vais pas faire d'études supérieures parce que j'ai un projet en Lozère où je suis bien ici, et c'est très bien aussi. Mais n'empêche que du coup, le campus est aussi dispo pour ces profils-là.
Alors évidemment, 6 mois, c'est peut-être un peu tôt pour que tu répondes à la question qui va suivre, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ou que vous aimeriez, avec ta collègue demande, améliorer ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, tiens, il y a telle ou telle direction qu'on a prise et qu'on n'a pas fait, etc.
Alors, non, effectivement, on n'a peut-être pas assez le recul. Laisser passer une année complète, ce serait pas mal pour pouvoir répondre mieux à cette question. Maintenant, c'est vrai que quand on a fait la rentrée en septembre, on n'avait pas pu communiquer auprès des lycéens vu qu'on avait été labellisé trop tardivement. Et dans nos effectifs, finalement, on a très peu de néo-bacheliers, même aucun sur Florac. Donc, on a plutôt des profils voilà, salariés, demandeurs d'emploi. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive aussi à toucher ces jeunes lycéens pour aussi pouvoir créer cette vie étudiante avec les étudiants de l'Institut Agro. Chose qui pour moi est aussi hyper importante, de pouvoir créer cette petite vie de campus à l'échelle de Florac.
Ouais, c'est clair. Avec qui on va faire un petit projet, là, les élèves de Supagro, là, dans un petit mois, là, je pense.
Ouais, ça va pas être si petit que ça, je crois.
Ouais, ça va pas être si petit. ça va être super, on en reparlera, auditeurs, auditrices. Ne digressons pas. Est-ce que, admettons, je suis intéressé, moi, pourquoi pas, est-ce que je peux arriver en courant janvier, en fait ?
Et oui, bien sûr, c'est ouvert toute la...
Dessus, en fait.
Exactement. Ça va dépendre de ta formation. La dernière inscrite, nous, elle arrive en janvier. En fait, on a eu pas mal cette année de personnes qui étaient déjà inscrites sur des formations à distance et qui étudiaient tout seul chez soi et finalement se sont dit « Ah bah tiens, le campus existe, je vais en profiter ». Et donc, bien sûr, on accueille toute l'année. Le jour où on en sera à faire des sélections, parce qu'on aura 50 candidatures, je te dirais que ce sera peut-être compliqué de venir s'inscrire en cours d'année. Mais on n'en est pas là et je ne sais pas si on en sera là un jour. En tout cas, voilà, tout dépend de ta formation et des modalités d'inscription de la formation que tu souhaites suivre.
Tu nous as dit 5 ici inscrits à Florac. C'était un peu compliqué pour une première année d'en accueillir plus. Mmh. Là, vous êtes content. Et c'est combien ? Une dizaine à terre ?
À terme, on devrait pouvoir accueillir 15 étudiants. On n'a pas vocation à en accueillir plus, déjà pour la qualité du travail de la tutrice. L'idée, c'est de vraiment rester sur des petits effectifs pour pouvoir faire de l'accompagnement de qualité. Après, on va avoir des nouveaux locaux au sein de l'Institut Agro. Là. L'idée, c'est d'avoir un espace vraiment avec un espace de travail, un espace de convivialité, un espace où on puisse plutôt faire des ateliers collectifs. Donc, on va quasiment tripler la surface qui nous est allouée à l'heure actuelle. Et du coup, on pourrait peut-être accueillir plus que 15 étudiants, sachant que finalement, les étudiants qu'on a, ils viennent 1 à 2 jours par semaine, selon leur planning, vu que c'est vraiment du sur-mesure. Donc finalement, on a rarement tous les étudiants qui sont là en même temps. Donc, on pourra avoir plus que 15 inscrits. Déjà, quand on en sera là, on sera super content.
Une chose à la fois, c'est sûr. Dis donc, oui, c'est sûr que soit la municipalité ou le département se donne les moyens vraiment pour arriver à finaliser, enfin, même pas à finaliser, mais à continuer à se faire développer le projet. Des liens utiles pour trouver les infos, page Facebook.
Une page Facebook, un site internet, celui de la ville. Donc, je ne sais plus, florac3rivières.fr, quelque chose comme ça.
Je mettrai le lien tout à l'heure sur notre site.
Une page Instagram, une page LinkedIn, on a tout fait. Mais la page Facebook est celle qui est la plus active.
Pas le choix, dans ton tutorat, il y a de la com, c'est pour ça que tu es là ce matin.
Exactement.
C'était ta première, tu t'en es parfaitement bien tiré. Merci beaucoup, Marie.
Merci beaucoup, Mané Corto.
Et le campus connecté à Florac, auditeur et auditrice, je mets évidemment toutes les infos, les liens sur notre site dans un instant. À très bientôt. Raphaël devait être là, il n'est pas là, c'est pas très très grave. On l'embrasse, on part à l'AG de la conf grâce à Naïs dans un instant. On continue avec du Brel ce matin, les remparts de Varsovie.
Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grandes places de l'Italie. Je trouve que madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que madame est jolie. Je trouve que madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve madame de cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre, de fine en fine. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Madame raconte partout que l'on m'appelle Tata Jacqueline. Je trouve madame mauvaise copine. Tandis que moi, tous les soirs, je suis chanteuse légère à l'Alcazar. Madame promène ses mains dans les différents corps d'armée. Madame promène mes sous chez des demi-selles de Bas-Quartier. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me voir tirer. Je trouve que madame est gonflée. Madame promène banco qu'elle veut bien me laisser régler. Madame promène bijoux qu'elle veut bien me faire facturer. Madame promène ma Rolls que poursuivent quelques huissiers. Je trouve que madame est pressée. Tandis que moi, tous les soirs, je fais la plonge à l'Alcazar. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son nom sur les grandes places de l'Italie. Je trouve que madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que madame est jolie. Je trouve que madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve madame de cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir de Mévisance. Madame traite son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que madame est de Valence.
Thank you. Le mardi 15 février, Radio Bartas s'est rendu à la salle des œuvres de Florac, où avait lieu une assemblée générale de la Confédération paysanne de Lozère. Nous y avons rencontré les co-porte-parole du syndicat.
Bonjour, Julien Delagne, maraîcher en bio, en vente directe à Saint-Alban-sur-Limagnole, en Nord-Lozère.
Bonjour, Siméon Lefebvre, moi je suis éleveur de brebis race Rayol qui sont menées en plein air intégral sur la commune de Ventalon-en-Cévennes, dans les Cévennes.
Comme tous les ans, on fait une AG, une assemblée générale. Donc, en général, on fait ça sur février-mars, puisque c'est la période la plus creuse pour la plupart des producteurs. Donc, comme tous les ans, on fait un compte rendu d'activité où on raconte un peu à tous les adhérents qui se sont déplacés ce qui s'est passé dans l'année. Tant au niveau de la représentation syndicale que des manifestations festives, que des actions de communication, que de la défense des paysans. Ensuite, on présente le rapport financier, ce qui est normal, hein, puisqu'il faut bien que les gens qui adhèrent à notre syndicat sachent où part leur argent. Voilà. Et ensuite, on a voté le renouvellement du comité départemental. Voilà, où certains membres du comité départemental, pour diverses raisons, ont voulu arrêter, comme tous les ans, et il y a de nouveaux membres qui les ont remplacés. Sachant que le prochain comité départemental, qui aura lieu dans un mois, puisqu'on fonctionne avec des comités départementaux tous les mois, élira le prochain bureau. Notre but à la Confédération paysanne, c'est de défendre les paysans de Lozère et tous les paysans de toutes les productions, sachant qu'un des vieux slogans de la Conf auquel je me réfère souvent, c'est des paysans nombreux pour des campagnes vivantes. Donc quand on a dit ça, on comprend que à la Conf, on préfère des paysans sur des petites fermes, parce que vu que le foncier n'est pas en quantité augmentable, il faut des petites fermes pour qu'il y ait des paysans nombreux. Voilà. Après, les axes de développement pour l'année prochaine, donc on a eu à la fin de notre assemblée générale un rapport d'orientation, donc où on avait listé des pistes à soumettre à nos adhérents sur savoir comment ils voulaient qu'on se positionne sur des stratégies intersyndicales pour peut-être les prochaines élections à la Chambre d'agriculture, sur la position de la Confédération paysanne Lozère par rapport au reclassement du plan loup des zones qui sont en cercle 1 et cercle 2. De quoi on a parlé d'autre, Simon, ce matin?
On a parlé du projet de loi actuel sur l'assurance récolte, qui est un projet qui est délétère parce que ça, beaucoup de petites productions sont inassurables et en fait, on va se retrouver, c'est un comble, à ce que des petits paysans cotisent pour qu'au final, ce soit les grosses productions, par exemple les gros céréaliers, qui arrivent à être assurés et à avoir des dédommagements sur des pertes de récolte, sachant que ce système est destiné à remplacer le système actuel de calamité agricole, qui n'était pas parfait, hein, mais là, ce sera encore pire, parce qu'en fait, on mutualisera la cotisation pour n'aider que certains qui sont pas forcément ceux le plus dans le besoin. Nous, on voulait un fonds d'aide qui soit beaucoup plus mutuel et puis qui fasse participer les filières amont et aval de l'agriculture, parce que si les agriculteurs sont en galère, ben en fait, les revendeurs de produits agricoles devraient aussi participer à l'aide de ces, enfin pour surpasser ces galères-là. Ça, c'est un projet qui avait été présenté par la Confédération paysanne, mais qui a été complètement retoqué pour, au contraire, mettre un système qui fait rentrer l'assurance privée, qui, au niveau des financements publics, va piocher dans le deuxième pilier de la PAC, donc qui est le pilier qui normalement aide à l'installation de jeunes agriculteurs, aide à l'agroécologie, les aides à la conversion bio sont du deuxième pilier. Donc on va aller piocher dans cette tirelire-là pour qu'il y ait moins pour l'installation de jeunes, moins pour la conversion agroécologique et puis de l'argent pour aider les agriculteurs lors de problématiques climatiques, mais pas forcément tous, quoi, avec certains petits ou certaines productions, les apiculteurs ou les maraîchers qui seront pas du tout éligibles à ce système-là, alors qu'ils auront à cotiser. Voilà. Nous, ça, c'est une orientation qui nous inquiète beaucoup dans les années à venir, de, encore une fois, remettre dans les mains du privé un secteur stratégique au niveau national comme est l'agriculture. On veut cette année aussi dans nos orientations réfléchir à comment mutualiser entre paysans des cotisations pour aider des secteurs ou des cas particuliers de fermes qui seraient en grande difficulté. Le plan national loup, c'est donc le plan qui vise à rendre compatible ou acceptable, en tout cas, la présence de loups et l'élevage. Nous, à la Confédération Paysanne, on remet pas en cause l'existence du loup, on s'affiche pas anti-loup, on s'affiche pas pro-loup non plus, mais notre objectif, c'est... Enfin, vu que notre raison d'être, c'est de protéger les paysans, de défendre les paysans, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'élevage puisse continuer à exister sur des territoires où il y a du loup. Donc la Lozère, depuis, je ne sais plus maintenant, plus d'une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années, connaît l'arrivée de loups depuis le massif des Alpes. Pour l'instant, ce sont toujours des individus plutôt seuls, sans forcément de reproduction, qui sont très, très mouvants sur le territoire. En fait, d'une année à l'autre, on a un, deux, trois loups. Une fois, ils sont sur la Margerie, d'une autre fois, ils sont sur le Mont Lozère. Et le problème, c'est que c'est en inadéquation avec une des applications du plan loup qui se fait à partir de zonage. Zonage dans l'espace et dans le temps, avec des moyens plus ou moins conséquents à louer suivant dans quel zonage on est, à l'échelle communale. Cercle 1, 2, 3. Le cercle 1, c'est quand il y a une présence permanente de loups, et à ce moment, ben, l'administration met plus de moyens pour payer un petit peu les éleveurs pour les inciter à être plus présents au troupeau, ou bien pour subventionner l'embauche d'un salarié qui ira garder les bêtes. Et puis il y a d'autres mesures plus d'investissement qui pourront être éligibles en cercle 2, comme par exemple acheter des filets électrifiés ou faire installer une clôture fixe électrifiée qui va avoir une certaine efficacité contre la prédation, pour s'équiper avec un chien de protection, pour acheter des croquettes pour le chien de protection. Voilà. Et le problème sur la Lozère, c'est que vu que le loup va et vient, la cartographie de ces cercles n'arrête pas de changer, et ça aide pas à des fermes à mettre en place des systèmes pérennes de défense contre le loup. Une année, parce qu'il y a eu une attaque sur ma commune, je vais avoir le droit d'embaucher un berger. Puis l'autre année, vu que la mesure a été efficace, qu'il n'y a pas eu d'attaque sur ma commune, eh bien, ma commune est déplacée et passe en cercle 2, et là, je ne peux plus embaucher quelqu'un. Et du coup, l'année suivante, eh bien, je vais avoir des attaques et on va faire le yo-yo comme ça. Nous, on demande à l'administration d'avoir un zonage qui soit plus lissé dans le temps et dans l'espace, donc déjà zoné un peu plus large, parce que la limite administrative de la commune, ça, le loup, il s'en fiche un petit peu, et faire 50 bandes dans la nuit, ça le dérange pas. Et puis, vu l'aspect très mouvant d'une année sur l'autre de la présence de loups, être sans cesse classé, déclassé en cercle 1 ou 2, ça aide pas les éleveurs à mettre en place des mesures pérennes qui sont, on pense, une des un des gages de réussite de cette cohabitation. Alors c'est probablement pas la seule. Peut-être que au bout d'un moment, il y aura effectivement trop de loups en Lozère et qu'il faudra songer à une régulation. Mais là, actuellement, avec 1, 2, 3 individus sur le département, moi, je me refuse à dire qu'un individu, c'est déjà un individu de trop et qu'il faut tirer dessus. Non, je dis que l'administration nous donne les moyens de vivre malgré la présence de cet individu-là. La politique qui a été menée ces dernières années ne nous convient pas. Je vais juste citer un petit peu le plan de relance d'Emmanuel Macron France 2030. Il veut une agriculture, donc en 2030, numérique, robotique et génétique. Le numérique, nous on préfère plutôt que des applications sur des smartphones pour gérer, d'ailleurs je ne sais pas ce que j'arriverai à gérer avec de l'électronique chez moi. On préfère de la main d'œuvre, du monde dans les campagnes. Et puis au lieu d'inventer des applications qui pour moi sont inadaptées, faut réinventer des savoir-faire agroécologiques, quoi. La robotique pareil, moi j'ai pas besoin d'un tracteur qui se conduit tout seul dans des endroits où de toute façon un tracteur ne peut pas aller, ni d'un drone qui va aller surveiller mon troupeau de brebis. Moi j'ai besoin d'avoir du monde dans les campagnes. Combien de personnes veulent s'installer en agriculture? Il y a énormément de candidats, mais rien n'est fait vraiment pour réussir à faire émerger à faire réaliser ces rêves d'installation qu'ont beaucoup de jeunes en dehors du cadre familial. Et puis la génétique, je pense pas, quand ils parlent de génétique, qu'ils parlent de préservation des races menacées et des variétés de légumes de nos grands-parents. Malheureusement, c'est les OGM qui reviennent sur le devant de la scène alors qu'on avait réussi à les faire interdire dans l'Union européenne. Donc voilà, nous on est, enfin c'est qu'un exemple sur nos désaccords avec le gouvernement actuel. Après, il y en a plein au niveau national, la confiscation de l'eau par exemple dans le marais Poitevin par quelques gros cultivateurs plutôt que d'en faire un bien collectif. Il me semble que dans la loi sur l'eau, l'eau fait partie du patrimoine commun à la nation, et là on n'est pas du tout là-dedans. Les exemples sont malheureusement nombreux. C'est ce qui est des fois un peu dur au niveau syndical, c'est de se retrouver à se battre contre un autobus qui va droit dans le mur, quoi. De voir toute une partie de la société qui va à l'exact opposé de ce qui nous semble être la solution.
Juste pour rebondir sur ce que disait Siméon, sur Emmanuel Macron qui veut en 2030 une agriculture donc notamment génétique, l'archispécialisation de certaines races animales sur des critères uniquement productifs, donc c'est de l'amélioration génétique, ce qu'on appelle de l'amélioration génétique, nous mène droit dans le mur dans certains élevages, notamment c'est ce qui se passe dans l'élevage avicole. Il y a des animaux, donc des canards et des poules, qui ont été archi sélectionnés pendant des décennies sur 2, 3, 4 critères productifs, donc qui ont perdu énormément en diversité génétique et qui se retrouvent très très faibles quand arrivent des épisodes aussi, comme il en arrive. Et donc la solution qu'on voit pour lutter contre les épisodes aussi, c'est la clostration. Donc nous, on est totalement opposé à ça. On pense que les élevages en plein air de volailles et des autres animaux, c'est pas le problème, c'est bien la solution. Donc là, on est vraiment à la limite de ce que peut faire la recherche génétique et l'archispécialisation des races.
Je m'appelle Mathieu Magne. C'est historiquement, donc je suis un militant de Réseau Salariat. Donc c'est une association qui défend un peu les thèses de de salaire à vie. Et aujourd'hui, du coup, je viens me présenter plutôt la sécurité sociale alimentaire après l'AG de la Confédération paysanne en Lozère. Oui, sur la sécurité sociale alimentation, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif, en fait, c'est de repenser des politiques agricoles et des politiques alimentaires. Et par politique agricole, on entend, en fait, repenser la production alimentaire, donc décider de ce qu'on produit, comment on le produit, avec qui, et avec un gros volet de démocratie, en fait, sur la production, de choix de la production. Et la deuxième partie, donc le deuxième pilier, c'est la politique alimentaire pour donner accès à l'alimentation à tous. On va vraiment travailler sur ces deux piliers en même temps. Un point important, c'est de comprendre que l'idée de la sécurité sociale alimentaire, c'est de sortir le profit comme... en tout cas, c'est que le profit soit plus l'axe d'approche pour choisir la production alimentaire, mais vraiment qu'on décide en fonction des besoins de tous. Et voilà, on va vraiment s'atteler à faire des décisions démocratiques sur ce qu'on produit, comment on donne accès à cette production. Et l'objectif, vraiment, que ce soit à but non lucratif. Ce que je vais montrer dans ma présentation tout à l'heure, c'est que historiquement, Réseau Salariat a travaillé sur l'histoire de la sécurité sociale du soin. Donc la construction de la sécurité sociale qui permet aujourd'hui de se soigner gratuitement, d'avoir accès au CHU, etc. Et en fait, au travers donc des tests de Réseau Salariat, du salaire à vie, on a construit quelque part un peu le miroir de la sécurité sociale du soin dans d'autres secteurs. Donc on peut l'appliquer aux médias. Et aujourd'hui, là, on essaie de travailler sur l'alimentation. Et au travers des mêmes mécanismes de cotisation sociale, on montre comment on peut financer en fait cette politique agricole au travers de subventions, de cotisations d'investissement, et en même temps donner accès gratuitement à hauteur de 150 euros par mois et par personne à cette nouvelle production-là. Et donc l'histoire, c'est anciennement la sécurité sociale vraiment de soins qu'on prend pour exemple pour financer une nouvelle production alimentaire. En gros, pour comprendre, l'idée, c'est qu'on mette en place une cotisation, on va dire par exemple 10%, une cotisation de 10%, avec laquelle on viendrait subventionner une nouvelle production agricole. On viendrait construire accéder à des nouveaux fonciers, installer des nouveaux paysans, mettre en place une nouvelle production agricole alternative par rapport à l'agro-business. Et à partir de là, on va créer un nouveau secteur agricole, une nouvelle production. Et on veut donner accès à tout le monde à cette production. Et pour ça, en fait, on va simplement faire comme si on rajoutait 150 euros par personne et par personne sur la carte vitale. Et ça permettrait d'aller voir tous les producteurs conventionnés au travers de cette sécurité sociale alimentaire. Et on pourrait du coup avoir un financement 10%, ça représenterait 120 milliards d'euros, ça représenterait la moitié de la production agricole alternative aujourd'hui. L'idée, c'est qu'effectivement, on crée un secteur agricole conventionné, on viendrait choisir les acteurs conventionnés, donc ce serait des agriculteurs, des distributeurs, etc., qui viendraient des produits issus d'une production alternative, non capitaliste, pour le dire clairement, et pour les rendre solvables, en fait, on permettrait à tous d'acheter des biens à hauteur de 150 euros par mois et par personne, et tout ceci serait financé par une cotisation, tout simplement. Et en fait, on viendrait, au travers de cette cotisation, en fait, on viendrait prélever une partie des coûts de la valeur ajoutée, donc 10%, et on viendrait faire vivre tout un secteur alternatif de production alimentaire, et on viendrait payer les gens qui travaillent dans cette production. Donc c'est pas on prélève de l'argent au détriment de certains, en fait on viendrait simplement au travers de cette cotisation donner de l'argent à des gens qui produisent tous les jours les biens alimentaires. Et ça, c'est voilà, c'est un peu sur ce quoi on travaille aujourd'hui dans le cadre de la sécurité sociale alimentaire. Aujourd'hui, alors il y a énormément de réseaux qui travaillent à la sécurité sociale alimentaire. Aujourd'hui, il y a la Confédération Paysanne, il y a Ingénieurs Sans Frontières, il y a Réseau Salariat, il y a le réseau CIVEM. Donc on est plutôt loin des institutions de pouvoir. Quand on analyse un peu la sécurité sociale du soin, vu que ça, on part un peu dans Réseau Salariat de cette base-là, on s'aperçoit en fait qu'entre les années 30 et les années 50, il y avait des multitudes de caisses qui existaient. Et c'est à partir de 46 où il y a eu une fusion, en fait, où on a créé quelque chose vraiment qui s'appelle le régime général et qui a fusionné fusionner tout ça. On pourrait imaginer aujourd'hui que dans le cadre de la sécurité sociale alimentaire, on multiplie les expériences locales au travers de subventions, au travers d'initiatives locales militantes, et que à terme, ça prenne suffisamment de poids au travers de restauration collective, etc., qu'on finisse par créer un peu la même dynamique, c'est-à-dire qu'on puisse fusionner après toutes les initiatives locales et créer vraiment un régime financé sur la base des cotisations à l'échelle plus nationale. À un moment donné, ça doit porter. Pour que ça fonctionne, il faut évidemment qu'on ait du poids politique, un poids symbolique, mais on doit passer par des expérimentations locales et on n'a pas le choix, quoi. Mais il faut vraiment faire ces expérimentations pour que quelque part derrière on ait symboliquement une puissance politique pour pouvoir proposer ce système-là. Aujourd'hui, justement, la discussion, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en Lozère pour aider les paysans et pour créer cette nouvelle dynamique alternative, voir comment on peut obtenir des financements de la part de la région ou du département ou de gens qui veulent bien aider, et voir ce qu'on peut faire sur différents leviers. Est-ce que c'est de l'aide directe? Est-ce qu'on aide à créer un réseau de distribution? On peut tout imaginer, en fait, pour aller dans ce sens-là, à l'échelle de la Lozère, évidemment, et puis voir après si on ne peut pas faire des coopérations à une échelle plus large. Tout est possible. Aujourd'hui, tout est à construire là-dessus. Je pense qu'on est au début de quelque chose de nouveau. Je pense que ça va prendre son temps, mais il ne faut pas se démoraliser face à l'ampleur de la tâche. Je pense que j'imagine qu'en 1946, on n'avait pas du tout l'idée qu'on allait pouvoir créer la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui, qu'il y a eu plein de choses qui existaient, qui étaient imparfaites. Et il existera aujourd'hui des choses imparfaites, mais on sait que si on garde l'objectif final, qui est d'arriver à construire une nouvelle politique agricole, une nouvelle politique alimentaire, on garde ça en tête, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça finisse pas par aboutir.
Voilà pour ce reportage sur l'AG de la Confédération Paysanne. Merci beaucoup. Anaïs, pour être tout à fait complet, la Confédération Paysanne déconfile le Salon de l'Agriculture et ça se passe ce vendredi 25 février à partir de 11h à la ferme du Ress. C'est chez Aurélien et Héloïse Galtier. C'est à Salgas, c'est à Vébron. Donc ce vendredi, n'hésitez pas à y aller. Il y aura différentes thématiques qui seront abordées. Pour être encore plus complet, c'est quand même bien foutu les mails hein, aujourd'hui. On a parlé du campus connecté de Florac. Eh bien, sachez que même si les portes du campus connecté ici à Supagro sont toujours ouvertes, ils organisent quand même, Marion organise quand même deux mercredis pendant ses vacances scolaires, hein, donc les 23 février et le 2 mars, de 9h à 17h, les portes ouvertes. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le campus connecté, pour ceux qui ont un projet de formation à distance, pour celles et ceux qui se disent que ça pourrait intéresser, ou tout simplement pour venir voir les locaux et échanger avec les étudiants et la tutrice Marion, bien rendez-vous à l'Institut Supagro ici à Florac. Voilà, et puis il y a une page Facebook, c'est Campus Connecté Florac 48. Et ben voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci Corto.
Bah avec plaisir, hein, comme toujours.
On se retrouve mercredi, je l'espère, avec Véronique Proust, qui est historienne, pour parler d'une exposition qui a lieu à Marvejols en ce moment et qui a l'air absolument géniale, qui a commencé aujourd'hui d'ailleurs. Je l'espère, j'attends de ces nouvelles. Merci à toutes et tous de nous suivre sur le 107. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, profitez-en bien. On se quitte avec Jacques Brel. Mathilde est revenue. À mercredi, portez-vous bien. Ciao.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Mon cœur, ne t'emballe pas. Fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête.
arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas, vous, mes bras, ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Ta mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer, Mathilde, mais apporte-nous du vin, celui des noces et des festins, Mathilde, mais revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon front lit de drap, Mathilde, mais revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te voilà.